Bonsoir, chers amis auditeurs de Radio Courtoisie. Bienvenue à Magnificat, l'émission de l'association Marie de Nazareth. Bonne et sainte année. Bonne année, Justina.
Bonne année, France. Bonne année, chers auditeurs.
Et bonne année à notre équipe de techniciens qu'on aime très fort.
Aussi.
L'année sainte, oui, car nous aurons un jubilé, cet événement spécial dans la tradition catholique qui se produit tous les 25 ans. C'est une période de célébration, de réflexion et de renouvellement spirituel pour les fidèles. Alors, l'année sainte est associée au pardon des péchés. Les fidèles sont invités à se confesser et à se réconcilier avec Dieu. Traditionnellement, nous sommes encouragés à faire un pèlerinage vers Rome. Vous irez, Justina?
Si Dieu le veut, hein.
Oui.
Le mien, je l'ai fait le 27 avril de l'année dernière, donc voilà.
Alors, nous vivrons une expérience spirituelle plus intense et l'ouverture de la porte sainte bientôt marquera le début des célébrations. L'année sainte est une occasion unique pour les catholiques de vivre leur foi de manière plus intense et de se rapprocher de Dieu. Alors, nous allons prier pour cela. Je vous invite aussi à vous rendre sur le site internet de l'association Marie de Nazareth. Vous pourrez y trouver de nombreuses choses qui vous intéresseront sans doute. Je vous invite surtout à vous rendre sur l'onglet du site sur l'encyclopédie mariale, où vous aurez beaucoup d'informations de toutes sortes concernant la Vierge Marie, et aussi une autre branche de l'association Marie de Nazareth. Je veux parler de 1000 raisons de croire, qui vous propose son magazine trimestriel, ses mails quotidiens sur une raison de croire, et son site internet 1000raisonsdecroire.com, 1000 en chiffres, 1000 raisons de croire, le tout attaché.com, où vous trouverez tout ce dont je viens vous parler concernant ce site et ses raisons de croire. Alors, Justina nous commentera cette semaine la lettre de saint Paul aux Galates, au chapitre 3, lu dans l'ancien calendrier orthodoxe de ce jour.
Oui, tout à fait.
Voilà. Et après, j'aurai un invité, et cet invité sera Justina, de nouveau, notre théologienne maison. Nous allons un peu plus vous découvrir et parler de diverses choses ensemble.
Avec plaisir.
Grande joie. Alors, en attendant, commençons avec les Galates.
Très bien. Donc, lecture de l'Épître aux Galates, chapitre 3, versets du 23 au 29. Avant la venue de la foi, nous étions enfermés sous la garde de la loi, réservés à la foi qui devait se révéler. Ainsi, la loi nous servit-elle de pédagogue jusqu'au Christ pour que nous obtenions de la foi notre justification. Mais la foi venue, nous ne sommes plus sous un pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi dans Jésus-Christ. Vous êtes tous en effet baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a ni juif ni grec, il n'y a ni esclave ni homme libre, il n'y a ni homme ni femme, car vous ne faites tous qu'un dans le Christ Jésus. Mais si vous appartenez au Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Eh bien, on continue avec l'apôtre Paul et son épître aux Galates. Je tombe dessus tellement souvent que je vais sans doute finir spécialiste en théologie paulinienne aux Galates, et ceci malgré moi. Ici, l'apôtre Paul compare la loi de Moïse à un pédagogue. Et si vous avez compris que le mot pédagogue est synonyme de instituteur, professeur, enseignant, vous avez tout faux.
Bon, bah alors on a tout faux.
Désolé. Car dans l'Antiquité, un pédagogue, c'est un esclave qui accompagne un enfant partout jusqu'à sa majorité. Cela se voit même dans l'étymologie pédagogue, donc péda, enfant, gog, venir marcher. Vous connaissez plein de mots communs en français qui contiennent une de ces deux racines, pédiatre, médecin pour enfants par exemple. Un autre mot moins sympa que je ne citerai pas ici, et pour la racine gog, par exemple la synagogue. Syna, oui. Ensemble, comme dans synergie, action commune. Donc une synagogue, c'est là où tout le monde vient, là on vient tous ensemble. Et donc la loi n'est pas enseignante dans l'image proposée par saint Paul, mais c'est un esclave chargé d'accompagnement de mineurs. Et la particularité est telle que l'enfant mineur ne pouvait même pas s'entretenir avec son père sans la présence du pédagogue. Et par cette image, Paul affirme qu'en Christ, l'humanité atteint sa majorité à pouvoir s'entretenir avec le père sans le fameux pédagogue. La seconde citation de Paul est très connue. Il n'y a ni juif, il n'y a ni esclave, ni homme libre, il n'y a ni homme ni femme, car tous vous ne faites qu'un dans le Christ Jésus. Mais saviez-vous qu'il s'agit d'une référence cachée. En effet, les sources écrites du judaïsme rabbinique sont postérieures à l'épître de Paul, mais avant d'être fixées par écrit, ils ont fait partie de la tradition orale que Paul, en tant que pharisien professionnel, connaissait par cœur. Voici à quoi ressemble une prière d'un homme juif le matin. Donc je cite le Talmud, traité Menachot 43b. « Béni es-tu, Seigneur notre Dieu, roi de l'univers, de ne pas me faire naître païen. Béni es-tu, Seigneur notre Dieu, roi de l'univers, de ne pas me faire naître esclave. Béni es-tu, Seigneur notre Dieu, roi de l'univers, de ne pas me faire naître femme. » Voyez bien que ici Paul met sur un pied d'égalité en Christ tous ces cas sociaux, si on peut le dire ainsi, qui sont mentionnés dans cette prière matinale. Donc, quand après cela on essaye de nous faire passer Paul pour un traditionnaliste, conservateur ou misogyne, personnellement j'ai envie de rire.
Merci beaucoup Justina. Alors maintenant nous allons vous écouter. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que nous allons entendre ?
Nous allons entendre une chanson qu'on a enregistrée avec un monsieur qui s'appelle Steve Zeitoun. C'est moi qui chante. L'idée des paroles vient de moi, l'idée de l'arrangement musical vient de moi, mais effectivement, les paroles, l'arrangement et la musique appartiennent à M. Steve Zeitoun.
Eh bien, écoutons.
Thank you. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Alors, c'était Justina.
Oui, c'était moi.
Cœur flamboyant. Incroyable. Alors, nous sommes aujourd'hui, nous fêtons de la 60e émission. C'est le début de l'année. Voilà pourquoi, chers auditeurs, nous voulions vous faire un petit cadeau. Alors, je souhaitais, Justina, que vous soyez plus qu'une voix pour nos auditeurs, car je ne pense pas que ceux qui sont derrière leur radio devinent que vous, notre spécialiste en théologie, diplômé de Saint-Serge, hein, promotion 2021, vous êtes tatoué, vous avez des piercings.
Oui.
Vous êtes toujours habillé en noir.
Pas que du noir.
Ah non,
noir.
Je crois que j'ai vu du bleu marine.
Il y a du bleu marine, du violet parfois, du bordeaux. Mais...
J'ai jamais vu jaune ou rouge.
Non, et surtout pas rose.
Alors, vous êtes très engagé dans l'église orthodoxe, comme chef de chœur aussi.
Oui, enfin, très occasionnellement maintenant.
Oui, vous donnez l'homélie dans votre paroisse?
Oui, une des rares femmes à le faire aujourd'hui dans le monde entier, oui.
On en avait parlé, donc vous avez fait de l'homilitique?
Oui.
Je me souviens.
C'est une discipline parmi d'autres, enseignée, donc on est tous concernés, hommes ou femmes, on est tous passés par là, Saint-Serge.
Et vous dépendez de l'église orthodoxe du patriarcat de Constantinople?
Oui.
Mais vous êtes russe d'origine?
C'est plus compliqué que ça en termes d'origine ethnique, mais effectivement, je suis russophone, oui.
D'accord. Ancienne marguillière.
Marguillier, ça vient du latin matricularius. C'était l'administrateur responsable d'immatriculer les pauvres rattachés à une paroisse à une époque. Mmh. Et c'est le terme qu'on emploie en français en équivalent du mot slavon starst. Ça veut dire plutôt l'ancien, l'administrateur. Donc en réalité, c'est le bras droit du recteur qui s'occupe de toute la partie civile. Donc il ne célèbre pas, bien entendu, mais faire partie des conseils œcuméniques interreligieux, gérer l'administration de la paroisse. Donc effectivement, ça fait partie de mon passé maintenant. Mm-hmm. Je ne suis plus marguillière, je l'étais pendant 6 ans. C'est bon, merci.
Et alors, vous avez environ quel âge?
32 ans.
Donc toute jeune.
Oh, ça dépend.
Et déjà pour faire déjà tout ça, c'est extraordinaire.
Bah, j'ai été élue marguillière à 24 ans.
Oui, c'est très jeune.
Oui.
Alors, vous avez des chants byzantins favoris, préférés?
Non, pas
Parce
spécialement.
Parce que ce que nous avons écouté là, c'est pas très byzantin.
Non, c'est
même.
Pas byzantin du tout. Et en plus, je chante très peu de byzantin parce que ce qu'on chante dans notre vicariat de tradition russe, on chante même en français ou en slavon, mais ça reste des chants inspiré de tradition russe, donc c'est pas byzantin. Byzantin, c'est vraiment autre chose, ça se chante en grec.
Oui, mais quand on dépend du patriarcat de Constantinople, on pourrait se dire quand même que vous êtes byzantin.
Non, enfin, s'il ne s'agit que de l'art de la byzantinerie que j'ai évoqué la dernière fois, mais bon, ça c'est le petit côté vicieux de toute personne orientale, mais voilà, le chant byzantin, c'est quelque chose de très concret, c'est une discipline très concrète que je pratique quasiment pas du tout.
D'accord.
J'ai eu une expérience de chanter du byzantin une fois, c'était génial, à refaire, mais c'est vrai que dans la tradition du vicariat russe, on reste finalement sur des chants adaptés en langue française, mais selon le rite russe. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus occidental en soi.
D'accord. Alors, expliquez-nous la différence entre l'église orthodoxe russe et la vôtre, celle de Constantinople.
Bah, théologiquement, il y en a aucune.
Oui.
Il y a aujourd'hui 15 églises orthodoxes autocéphales, c'est comme ça qu'on les appelle.
Oui.
C'est une famille d'églises qui ne forment qu'une église. Donc, quand on parle de 15 églises, c'est qu'on parle de 15 autonomies, de 15 administrations, si vous voulez.
Mm-hmm.
Mais quand on cite le credo, on ne dit pas « je crois en l'église orthodoxe de Constantinople », on ne dit pas « je crois en l'église orthodoxe russe », on dit toujours « je crois en l'église, une sainte catholique et apostolique ». Après tout, le mot « catholique » vient du grec, et pas du latin, « catholique », qui veut dire effectivement « universel partout présent ». Et c'est notre profession de foi, donc on ne croit pas en une juridiction en particulier, et ça ne fait pas objet de ma foi. Mon appartenance juridique, c'est quelque part un choix de confort, et encore, entre nous soit dit, on choisit entre la peste et le choléra, j'ai envie de dire, très sincèrement. Mais voilà, bon, j'ai quelques problèmes avec personnel, hein, à titre personnel, j'ai quelques contradictions personnelles avec la politique menée par le patriarcat de Moscou, mais cela n'empêche que je reconnais que le Christ qui est dans leur coupe, c'est le même Christ.
Oui.
Cela n'empêche pas que je reconnais les fidèles et les prêtres de cette église comme mes frères, mes sœurs et oui. mes pères en Christ, même si je suis dans le grand désaccord politique avec ce que prône effectivement le patriarche de Moscou. Mais chez nous, c'est possible.
Oui.
Pour nous, le patriarche, ce n'est pas un mini-pape. C'est juste un administrateur central d'une église autonome. On peut être d'accord avec lui, on peut ne pas être d'accord. De toute manière, tout ce qu'il dit n'a pas de valeur absolue doctrinale.
Oui.
Donc que ce soit mon patriarche direct, patriarche Bartholomé, que ce soit patriarche Cyril, que ce soit le patriarche d'Antioche, d'Alexandrie ou qu'en sais-je, pour moi, ça revient au même.
Mais alors, comment vous vous situez par rapport au pape ?
Par rapport au pape de Rome ?
Oui.
Parce que vous savez, le patriarche d'Alexandrie a aussi le titre du pape, et il l'a eu même avant l'évêque de Rome.
Ah, je ne savais pas, non ?
Non, non, le mot pape signifie papa, petit père. Mm-hmm. Vous savez, le clergé orthodoxe, on l'appelle de manière vulgaire les popes.
Oui.
Ben, c'est la même chose. Mm-hmm. Donc vous avez un pape, nous on a des milliers de popes.
Oui.
Et effectivement, pour moi, le pape de Rome, donc l'évêque de Rome, effectivement, c'est quelqu'un qui... à la succession apostolique,
oui.
que je ne nie absolument pas, qui est là et qui représente le monde occidental. Mais aujourd'hui, malheureusement, même si les anathèmes ont été levés au XXe siècle,
oui.
l'intercommunion n'a pas été rétablie. Donc pour moi, ça reste un évêque qui a la succession apostolique, qui est chargé de la ville de Rome et de tous les territoires canoniques qui lui appartiennent, de droit. Mais malheureusement, je ne suis pas en communion avec lui. Voilà, c'est tout.
Vous me disiez que vous aviez des opinions théologiques. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là ?
Ah, ça dépend. On peut, comment dire, commencer par mes opinions théologiques en tant qu'orthodoxe. Après, on peut commencer par mes opinions théologiques personnelles, parce que dans l'orthodoxie, nous avons ce qu'on appelle les théologoumènes. C'est une opinion théologique personnelle qui n'est pas un dogme,
oui.
mais qu'on a le droit de penser puisque ce n'est pas condamné.
Ah oui.
Donc, on peut jouer là-dessus, là, chez nous.
Donc, vos opinions théologiques personnelles ?
La plus grande opinion théologique personnelle qui est la mienne, c'est que le christianisme, et je dis bien le christianisme, je ne dis pas l'orthodoxie, je ne dis pas le catholicisme romain, le christianisme dans son essence même, c'est une anti-religion. Ça, c'est mon théologomène personnel.
Ok. Bon. Est-ce que vous pouvez un peu développer ? Parce
qu'on
ne peut pas s'arrêter là quand même.
Pour faire très brièvement, il n'y a pas de définition de religion qui soit reconnue par tout le monde. J'en suis consciente. Il y a plusieurs définitions. Alors, il y a le classique religare comme relier ou relire. Mais je ne l'accepte pas pour des raisons que j'ai déjà évoquées dans pas mal d'émissions. Mm. Et moi, je prends la définition sociologique, formée, donc, enfin, cristallisée, j'ai envie de dire, par Émile Durkheim, le père de la sociologie française. Je résume de mémoire. Pour lui, une religion est un culte social ou sociétal, selon vos préférences, qui vise à, quelque part, réguler l'abîme entre ce qui est déclaré comme sacré et profane dans cette société donnée. En tant que chrétien, et je pense que tout chrétien, qu'il soit catholique, romain, orthodoxe ou protestant, il sera d'accord avec moi, nous n'avons plus rien à réguler, puisque le régulateur, c'est le Christ lui-même. Le monde a été sanctifié par lui, l'humanité a été sanctifiée, tout ce que nous avons à faire, c'est d'accepter ce don et d'aller en avant, et c'est par nous que toute la création, finalement, se sanctifie. Donc, nous n'avons plus rien à réguler. Et en commençant par là, et après on peut rentrer sur la mécanique du sacrifice, effectivement, se rappeler de René Girard, c'est à ce titre-là, pour nous, moi j'estime que nous sommes une anti-religion. N'importe quelle autre religion fonctionne selon les tabous, le interdit, le permis, le haram halal, appelez ça comme vous voulez, ça ne change rien, ça n'a rien de personnel. Dans le christianisme, quand quelqu'un réfléchit comme ça, j'en ai presque envie de pleurer. Parce que finalement, on prend trop l'exemple sur les autres. Mais pour moi, nous ne sommes pas une religion parmi d'autres et nous ne sommes pas la vraie religion. Nous sommes au-delà de ça. Si Dieu s'est fait homme, la religion s'est terminée. C'est aussi simple que ça.
Alors, je ne partage pas tout à fait votre point de vue, mais on en parlera une prochaine fois, puisqu'on est là
pour
parler.
Je peux toujours développer, oui.
Justina, alors, vous êtes donc chez nous toutes les semaines. pendant cette demi-heure d'émission, mais vous ne faites pas que ça dans la vie, vous travaillez. Je sais que votre métier ne vous remplit pas d'allégresse, que vous aimeriez reprendre vos études pour enseigner.
Oui, c'est vrai. Donc, je ne dirais pas où exactement, comment, ni pourquoi, mais bon, voilà, je suis fonctionnaire d'État et ce n'est pas du tout quelque chose qui m'enchante actuellement. Et c'est vrai que j'aimerais peut-être soit reprendre des études, soit obtenir un poste. Et là, je vise tout, tout en même temps, là où je peux me rendre utile avec mes compétences, c'est-à-dire mon sens analytique, les connaissances linguistiques. Et maintenant, bon, maintenant j'ai un an et demi d'expérience radio aussi, donc qui sait, journalisme, rédaction d'articles, traduction, je peux faire pas mal de choses, gestion administrative, je m'y connais aussi. Bon, c'est vrai, mais mon triste vérité que j'ai pas tellement envie d'avouer, mais effectivement.
Oui. Alors, dites-moi, Justina, l'Église orthodoxe me semble assez discrète en France. Hein. Je ne sais pas combien de fidèles vous êtes.
Moi non plus.
Oui,
parce
pas qu'il très nombreux.
Il n'y a pas de statistiques réelles, parce qu'il y a soit des statistiques ethniques.
Et ces statistiques, bon, on ne les a pas, mais on voit quand même, enfin, on n'entend pas parler particulièrement de l'Église orthodoxe.
On reste discret, on ne distingue pas un orthodoxe de n'importe quel autre citoyen français ou étranger résident en France, parce que c'est vrai que nous ne sommes pas visibles en réalité. Bon, je ne compte pas les cybernéophytes, comment je les appelle, qui commencent à mettre des grosses croix dignes d'un métropolite, et en mettant des voiles qui ressemblent plus à des voiles musulmans. Mais bon, voilà, ça c'est les gamins qui démarrent, ils sont dans leur début, dans leur recherche. Mais effectivement, un orthodoxe moyen, vous le verrez jamais de manière ouverte en France. Et pour trouver nos églises, il faut savoir où chercher.
Mais c'est ça, parce que quand on vient au studio de Radio Courtoisie, nous passons devant une église orthodoxe, très discrète. Nous avons l'impression de... En fait, j'avoue, hein, les premières fois, je n'y avais pas prêté attention. Et puis, il y a la belle cathédrale... qui est sur les bords de Seine, qu'on repère de
les
loin.
Les fameuses coupoles. C'est la cathédrale Sainte-Trinité, mais qu'on appelle communément les coupoles.
Ah bon ? Bon, oui. Très bien. Sinon, il y a Saint-Serge.
Saint-Serge, il y a rue d'Arru, donc cathédrale Saint-Alexandre Nevski. Il y a Saint-Séraphin de Sarov, 91 rue de Courbe. Pareil, il faut savoir le trouver. Donc, excellence, effectivement, qui n'est pas loin de la radio.
Et ça, c'est pour Paris et en province.
Paris, mais il y a Boulogne-Billancourt aussi.
Oui, mais je pensais à...
En province, toutes les grandes...
Il y a une très grande communauté.
Oui, mais il y en a même plus d'une. Dans le sud, je crois que ce sont les mieux servis.
Oui.
En Bretagne, c'est là où je connais bien. Oui, il y en a aussi. En tout cas, Rennes-Saint-Brieuc, Pampon, Quimper, Lorient sont concernés.
Ah oui, donc vous êtes quand même bien...
On est bien présent. Je pense que dans toutes les grandes villes, il y a quand même une chance de trouver une, voire deux communautés orthodoxes de juridictions différentes. Mmh. On va dire qu'il y a deux juridictions qui priment sur la France. C'est soit les Roumains, soit les Russes. En troisième position, je dirais les Grecs, y compris notre vicariat.
Oui.
Après, il y a d'autres églises qui sont moins présentes, comme le patriarcat d'Antioche, où je crois qu'ils ont à peine deux paroisses.
Oui.
Et après, il y a ce que j'appelle personnellement, pardonnez-moi, les Pokémon, c'est-à-dire les églises qui se disent orthodoxes, mais qui sont hors champ canonique. Mais voilà, je m'arrête là, sur les Pokémon.
Alors, pour terminer, je vais vous faire un petit peu de pub. Vous avez un compte TikTok avec de très, très nombreux followers, hein?
14 100 aujourd'hui.
Alors France 2 était du reste venue nous filmer l'année dernière pour faire un reportage sur vous, donc sur nous. Et j'imagine qu'il y a eu pas mal de retours là-dessus. Bon, alors comment est-ce qu'on vous trouve sur les réseaux sociaux?
Alors sur les réseaux sociaux, on me trouve facilement. Donc sur TikTok, c'est orthodoxie.tv.
Oui.
Et après, à titre plutôt personnel, bon, sur Facebook, c'est Justine Kerry. Bon, ça, c'est un pseudonyme.
Oui.
Mais pour le moment, ça s'arrête là. Bientôt, je vais peut-être créer une chaîne russophone, mais je ne pense pas que ça va intéresser nos auditeurs. Donc,
Alors, Justina et Justine.
C'est le même prénom.
Oui, je sais. Mais on vous trouve sur les réseaux sociaux. Donc, Justine Kerry, comment écrivez-vous Kerry?
K-E-R-I.
Je n'aurais pas pensé à le prononcer comme ça. Très bien. Bon, Justina, merci beaucoup.
Merci.
Quel phénomène. Je pense que tout le monde est étonné, finalement, de qui est derrière le micro. Et bravo pour votre tessiture. En écoutant tout à l'heure
pour
ce
la
morceau,
voix.
J'ai trouvé ça extraordinaire.
Une contralto, c'est rare, mais c'est efficace.
Eh bien, bravo. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Alors, chers auditeurs, nous nous retrouvons la semaine prochaine. Alors, nous parlerons de tout autre chose, parce que nous parlerons de Notre-Dame de Guadeloupe. Voilà, bonne semaine et encore bonne année.
Bonne année.